Nous sommes en compagnie de François Boucher et on parle de la mission Planck en parcourant la grande histoire de la découverte, l'observation, l'arrivée de données qui permettent aujourd'hui de regarder une carte. Vous avez parlé d'empreintes digitales, la première image de l'univers juste 300 000 ans après le Big Bang, cet ordre de grandeur-là. On a aujourd'hui sous les yeux la carte, en tout cas faite par ce satellite américain qui a succédé à Kobe, WMAP, et qui est une carte, entre guillemets, assez détaillée, sur laquelle les scientifiques discutent quand même depuis quelques années. Est-ce que le satellite Planck, donc, qui va observer pendant quelques années le fond diffus de l'univers, va apporter des informations plus précises, des informations complémentaires, va être beaucoup plus fine en détail pour les images que ne l'a été WMAP par rapport à Kobe?
Alors, deux points. D'abord, derrière Kobe, il n'y a pas eu rien avant WMAP. Il y a eu beaucoup d'expériences, dont une expérience qui a été un point essentiel dans le développement du sujet, qui était une expérience ballon, qui a mis en œuvre les mêmes technologies que celles qui vont être sur Planck, et qui ont permis de découvrir que la géométrie spatiale de l'univers est essentiellement plate. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais ça a été un des grands moments, je pense même à long terme, de l'histoire scientifique. En fait, après Kobe, le grand moment, c'est une manip ballon qui l'amène. C'est deux manip ballons qui s'appellent Maxima et Boomerang, qui sont toutes les deux mettent en œuvre les technologies de bolomètre qu'il y a sur Planck, et qui apporte un élément essentiel, l'étape suivante dans la prédiction. Il trouve un élément essentiel de la prédiction de la cosmogenèse.
Que veut dire univers plat ?
Univers plat, ça veut dire, ça a une définition très précise, ça veut dire que ça satisfait aux critères de mesure, par exemple, que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Mmh. Et donc, la courbure d'un univers... De la courbure spatiale est quelque chose qui se mesure. C'est pas du tout simplement une théorie mathématique. C'est-à-dire, si on va le faire on va en discuter deux minutes, disons, sur une surface à deux dimensions, c'est un petit peu plus facile, mais c'est la même chose à trois dimensions. Une surface peut être plane, c'est celle d'une feuille de papier, par exemple, et là, vous allez dessiner un triangle et vous allez regarder les sommes des angles et vous allez trouver sur 180 degrés. Si maintenant, vous dessinez un triangle sur une sphère, par exemple, sur un ballon, vous allez regarder et vous verrez que la somme n'est pas la même. Et si vous le faites sur une selle de cheval, qui est de courbure opposée, vous allez encore trouver une quantité différente. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que vous rendez compte que la courbure est une propriété intrinsèque, alors en l'occurrence de la surface en question. À trois dimensions, c'est peut-être plus difficile à visualiser, mais c'est exactement la même chose. Vous pouvez prendre un triangle fabriqué de trois étoiles, et si vous imaginez que vous pouvez vous promener et faire cette mesure, alors on ne le fait pas de la même manière, parce qu'on ne peut pas se promener d'une étoile à l'autre, mais on a d'autres manières avec des rayons lumineux, etc. On mesure la courbure. Et donc, la courbure spatiale, elle peut être de différents types. Les propriétés des taches du corps noir cosmologique dépendent de la courbure de l'univers. Parce que simplement, en gros, c'est selon qu'on est dans un univers plus ou moins courbe, spatialement, eh bien, les taches ne vont pas avoir la même taille. Donc, la théorie étant préexistante, on savait que les taches devaient apparaître sous une certaine forme si l'univers était spatialement plat, ou un peu plus grosse ou un peu plus petite, s'il était à courbure positive ou négative. Ce que cette expérience a fait, ça a été de mesurer directement cette propriété-là des taches, et c'est tombé pile poil sur les prédictions théoriques correspondant à un univers spatialement plat. Du coup, un vieux débat qui traînait depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui était de dire, finalement, quand on essaie de regarder la quantité d'énergie qu'il y a dans l'univers, etc., et qu'on utilise la théorie, est-ce qu'on aboutit à un univers plat ou pas? La réponse était non.
J'ai bien compris qu'il s'est passé des choses entre Kobe et les dernières images, mais effectivement, je reviens quand même à ma question. Qu'avez-vous appris avec les images de WMAP, dont on peut dire qu'elles ont considérablement amélioré la définition de cette première empreinte digitale observée de l'univers? Qu'avez-vous appris qui est important. Et aujourd'hui, en regard de ce que va faire Planck, où finalement va avoir lieu la percée, entre guillemets.
Alors, les expériences ballon ont d'abord fait une petite cartographie, certes précise, qui ont permis cette avancée dans un tout petit coin du ciel. WMAP a fait quelque chose de comparable sur tout le ciel. Donc, on a beaucoup étendu la qualité de l'image obtenue. Alors, qu'est-ce que c'est que la qualité d'une image? Il faut d'abord s'entendre. La qualité d'une image se mesure à deux choses. Les plus petits détails, donc la résolution de l'image. Donc, si vous êtes en train de parler d'une photo, par exemple, on parle du nombre de pixels de l'image. Ça, c'est une chose. Mais un pixel à lui tout seul, ça ne suffit pas, parce que s'il n'a que du bruit dans ce pixel-là, vous ne voyez rien du tout. Donc il vous faut non seulement la résolution, mais il faut une autre propriété qui est le signal sur bruit. Vous savez bien que quand vous prenez une image quasiment dans le noir, vous voyez que du bruit. Donc il faut améliorer les choses. Une image, il faut l'améliorer en termes de sa résolution angulaire, les plus petits détails que vous pouvez distinguer, et puis le niveau de bruit, c'est-à-dire effectivement les plus petits détails que vous pouvez distinguer sans être dominé par le bruit. Très bien. Alors WMAP a fait un premier rendu, une première amélioration, si vous voulez. C'est un meilleur appareil photo que Kobe. Donc vous prenez la même image, c'est la même hein, de toute façon, c'est cette image de l'univers à 300 000 ans après le Big Bang. Mais là où les plus petits détails de WMAP étaient 10 degrés, de Kobe pardon, étaient 10 degrés, WMAP passe à 15 arcminutes, disons, un quart de degré. Donc on peut distinguer des détails 40 fois plus petits, vite dit. Bien, alors simplement, le rapport signal sur bruit n'est pas si bon que ça. Alors on pourrait dire, qu'est-ce qui est suffisamment bon? Alors c'est là qu'il faut revenir à la théorie. C'est-à-dire que finalement, ce qui est extraordinaire dans ce domaine, c'est que finalement, la théorie a souvent précédé les confirmations expérimentales. On a un cadre théorique, c'est-à-dire qu'on a construit sur à la fois la relativité générale et puis tous les successeurs. Et donc on peut se poser la question de dire, qu'est-ce qui serait l'expérience parfaite? Alors, on peut se dire, finalement, ce signal cosmologique, étant donné tout ce qu'on comprend, on pense qu'il y a de l'information jusqu'à à peu près 5 arcminutes. Donc, un trentième de degré, on va dire. Bon, et puis, évidemment, il faut couvrir toutes les échelles spatiales, donc c'est tout le ciel. Donc, il faudrait donc aussi avoir des détecteurs qui soient suffisamment sensibles pour pouvoir voir avec un bon signal sur bruit, une bonne qualité si vous voulez, les plus petits détails. Donc ça vous fixe, vous êtes en train de remplir un cahier des charges que vous êtes en train d'écrire, l'expérience idéale pour sortir toute l'expérience, toute l'information cosmologique qu'il y a dans les anisotropies de corps noir devrait satisfaire à un certain nombre de propriétés de résolution angulaire, de signal sur bruit, et en train de faire notre marché idéal, en fait il vous faut une chose supplémentaire. Il faut que vous soyez capable de séparer le bon grain de l'ivraie, si vous me permettez l'expression. Ce que ça veut dire, c'est que le rayonnement qu'on reçoit de l'univers, il est celui du corps noir dans ses longueurs d'onde, mais aussi, quand on regarde dans le plan galactique, il vient d'abord de l'émission du plan galactique, et quand on regarde dans la direction des amas de galaxies ou de certaines galaxies, il vient de ces galaxies. Il nous faut une capacité de séparer ce qui est cosmologique de ce qui n'est pas. Pour ça, on va justement utiliser le fait que le rayonnement de corps noir a une signature de corps noir, une signature spectrale. Donc c'est très simple, ce qu'on veut, c'est qu'on veut non pas faire une image en fonction de la longueur d'onde, on aimerait en faire une dizaine à des longueurs d'onde différentes pour voir la partie constante, celle qui correspond à des fluctuations de température de corps noir, qui est la partie cosmologique, et puis tout ce qui varie différemment d'une image sur l'autre, qui est le reste. Donc notre expérience idéale pour la température, le cahier des charges, c'est non seulement sensibilité, résolution, mais aussi un domaine de fréquence beaucoup plus large que celui de WMAP. Eh bien voilà, vous avez le cas scientifique de Planck. On s'est simplement présenté devant l'ESA en disant « Voilà le cahier des charges de l'expérience idéale, nous vous proposons de la construire ».
Alors, vous l'avez très bien défini dans le cadre idéal, comme vous le dites. On se souvient, quand on a suivi les affaires de WMAP, que les équipes scientifiques ont mis du temps à publier leurs résultats, parce que c'était extrêmement fin, extrêmement sensible. On a pu voir à travers les publications qui ont suivi un certain nombre de choses apparaître comme des... on a parlé de trous froids, on a parlé d'axes du diable, on a parlé des noms qui sont très poétiques, hein, mais qui montraient qu'effectivement... Tout n'était pas aussi simple que être capable de séparer, comme vous le dites, ce qui vient du global de ce qui vient du local. Est-ce que WMAP, justement, va pouvoir nous dire que ces bizarreries qui ont été observées par le satellite WMAP, est-ce qu'il va pouvoir le résoudre ? Est-ce qu'il va pouvoir répondre ces questions pour savoir si ce sont de vraies bizarreries ou finalement ce sont des artefacts locaux ?
Ce qui est sorti de votre bouche, c'est WMAX. Je pense que ce que vous vouliez dire, c'est est-ce que Planck va permettre de lever ces incertitudes ? Alors, reprenons donc un petit peu le fil. Et donc, ce qu'on a proposé, très précisément, c'est l'expérience idéale. Au sens de, du point de vue du cahier des charges théorique, voilà ce qu'il faudrait faire. Alors, je tiens à préciser tout de suite que... Il y a une autre source d'information cosmologique dans la lumière qui est issue du Big Bang, qui est une propriété peut-être un peu plus, un peu moins intuitive que son intensité, qui est son degré de polarisation, qui est une source d'information supplémentaire. Et si Planck a vocation à être l'expérience ultime, tente d'être l'expérience ultime pour la mesure des anisotropies de température, elle n'est en revanche pas ultime au sens de la mesure de la polarisation du rayonnement cosmologique. Donc, on ne fera pas tout, mais en revanche, on essaye de faire au mieux de ce qui est possible de faire sur la température. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va nous permettre de résoudre, puisque c'était ça la question. Oui. Alors, il faut aller un petit peu plus loin sur l'interprétation de ces tâches. Alors, parce que là, vous avez focalisé l'attention tout de suite sur les choses, disons, un peu étranges, mais avant même d'en venir aux étrangetés... qu'est-ce qu'on essaie de sortir de l'analyse de ces cartes ? Finalement, vous avez une sorte de... Vous avez de la théorie, et avec cette théorie, vous êtes capable de dire... Vous avez une machine à univers au pluriel. C'est-à-dire que vous avez un cadre conceptuel qui vous dit, si je mets ça, tel type d'ingrédient, voilà comment l'univers, et notamment le corps noir, va apparaître. Donc, c'est une théorie prédictive, certes, mais paramétrée. Ça veut dire que elle prédit qu'on va observer ça s'il y a telle quantité de matière, s'il y a ceci, s'il y a cela. Donc, en gros, la théorie est une manière de traduire sous forme de rendu observationnel la valeur d'un certain nombre de paramètres. Alors, quels sont ces paramètres ?
Ça s'appelle un modèle d'univers, ça.
Oui, c'est un modèle d'univers, mais d'accord. Un modèle complet qui inclut la cosmogenèse, c'est-à-dire la formation des structures. Mmh. Et donc, quels sont les fameux paramètres qui influent sur la caractéristique, la texture des anisotropies du corps noir cosmologique, en fait, on peut les classer en deux types. Il y a ceux qui décrivent le mécanisme physique à l'origine des fluctuations primordiales très tôt après le Big Bang, dans quelques milliardièmes de seconde après, et puis les autres qui contrôlent la manière dont ces conditions primordiales sont subtilement modifiées pendant la première phase de 300 000 ans. Quels sont ces paramètres ? On appelle ça les paramètres dits cosmologiques. Et ça dépend, parce que, en fait, de la quantité de matière qu'il y a dans l'univers, la quantité de rayonnement, la quantité... Tout ce qui influe sur les taux de croissance visant de ces fluctuations-là. Donc, en fait, ce tas, paramètres cosmologiques qui décrivent le recensement de l'univers, sont contenus, combien il y a de quoi, d'une part, et quelles sont les caractéristiques des fluctuations primordiales très peu de temps après le Big Bang, c'est tout ça... C'est une vingtaine de paramètres qui déterminent l'apparence de cette carte. Donc, ce que vous faites, c'est que vous avez votre machine à univers, donc votre machine à fabrication de cartes, et puis vous regardez ce que la nature a fourni et vous dites « Ah ben, c'est facile, celle qui rend le mieux le compte, c'est la théorie numéro 27, ou 32 bis, ou 43 B, qui correspond à telle valeur des paramètres avec telle manière de faire le calcul. » Donc, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est de déterminer les paramètres sous-jacents qui permettent de dire, finalement, les conditions physiques primordiales qui ont engendré les fluctuations sont de telle nature, et le contenu de l'univers doit y avoir tant de ceci et de cela. Alors, WMAP a fourni une première idée sur cet ensemble de paramètres, mais vous vous imaginez bien qu'à un niveau de précision donné, vous avez un certain niveau d'inférence sur ces valeurs de paramètres. Donc en fait, il y a une partie des paramètres où WMAP ne dit quasiment rien, simplement parce que l'image n'est pas assez précise. Vous imaginez une photo, si vous avez suffisamment peu de résolution et que vous ne voyez pas les rides, vous allez vous tromper sur l'âge. Voilà, enfin, c'est une analogie bien sûr, mais ce que j'essaye de dire, c'est que un niveau de précision donné correspond à un niveau de possibilité d'inférence sur qu'est-ce qui rencontre des données. Donc WMAP fait un travail extraordinaire sur un certain nombre de paramètres qui sont maintenant fixés et qui sont suffisamment bons pour que les améliorations apportées par Planck ne soient pas qualitativement différentes. C'est-à-dire qu'il y a certains paramètres qui sont maintenant bien déterminés déjà par WMAP, certains paramètres cosmologiques s'entend. Donc la précision, l'augmentation de précision que va apporter Planck ne va pas être très fondamentale. En revanche, il y a d'autres paramètres qui sont quasiment libres, laissés libres par WMAP, simplement parce que leurs caractéristiques, leur empreinte dans l'image est dans la partie qui n'est pas résolue, qui n'est pas visible par WMAP.
Lesquels, par exemple ?
Alors, par exemple, on est très très intéressé par l'amplitude relative des fluctuations primordiales de grande taille et de petite taille. C'est-à-dire celles qui vont contrôler plutôt les super amas de galaxies comparées aux galaxies ou aux échelles encore plus petites. Alors, ça, on sait que grosso modo, il y a une certaine loi qui relie l'amplitude à ces différents niveaux de résolution. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est quelque chose de très très précis, c'est il faut arriver à une certaine précision pour que ça commence à faire la séparation entre les différents modèles. À l'heure actuelle, la déviation par rapport à la partie standard, c'est ce qui nous intéresse, c'est dans les barres d'erreur de WMAP. WMAP a quasiment rien à dire sur le sujet. Enfin, si ce n'est que globalement, c'est globalement en accord avec les théories attendues, mais ça n'a pas la précision suffisante pour commencer à faire le tri entre les théories. Donc voilà un exemple précis où on espère arriver au niveau de précision sur la mesure de l'amplitude relative des fluctuations aux différentes échelles pour pouvoir maintenant dire des choses très directement sur quels sont les modèles qui engendrent les fluctuations primordiales qui sont les plus pertinents. Alors il y a d'autres exemples, ça c'est un exemple, il y a d'autres cas où, par exemple, certains paramètres dans notre langage sont dégénérés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dégénérer ? C'est pas exactement pareil que dans l'espèce humaine. Avoir un impact dégénéré, ça veut dire qu'en fait, on peut soit modifier un paramètre, soit l'autre, soit les deux simultanément, mais selon une certaine loi, ça va avoir le même effet. Alors, donc ça veut dire qu'il y a une ambiguïté sur la détermination de ces paramètres de manière indépendante, ce qu'on détermine, par exemple. Par exemple, on peut imaginer que si on n'est pas très précis, on détermine bien la somme de deux paramètres. Et puis, si on devient très précis, alors il y a des effets fins qui vont nous permettre de les déterminer séparément. Alors voilà un autre exemple. Il y a un certain nombre dans ce ensemble d'une vingtaine de paramètres qui sont mal déterminés par WMAP ou qui sont dégénérés et qu'on va pouvoir commencer à séparer avec Planck. Alors ça, c'est toujours dans le contexte où il n'y a pas de surprise. Maintenant, encore une fois, il se pourrait qu'il y ait des surprises. Je peux pas vous dire à l'avance ce que Mère Nature a décidé de révéler quand on va la regarder avec plus de précision.
Je vais y aller. Est-ce que les observations de Planck pourraient donner des informations qui permettraient à la physique des cordes, par exemple, dont on parle beaucoup, d'avoir une matérialité observationnelle à un moment donné ? Est-ce que finalement la phase un peu mystérieuse de l'inflation de l'univers aujourd'hui qui est fortement discuté pourrait être alimenté par des données supplémentaires. Est-ce que les étoiles qui vont s'allumer juste après l'apparition des premières concentrations d'étoiles vont apparaître dans ce rayonnement ? Enfin, qu'est-ce que vous en attendez et qu'est-ce qui pour vous consisterait une révolution ? En sachant qu'on a quand même mis beaucoup de choses, j'allais dire, sur le berceau, autour du berceau de Planck.
Alors, d'abord, on a fait, il y a à peu près un an et demi, une mise à jour du cas scientifique de Planck, et on en a écrit un livre. D'accord, donc il y a un livre qui s'appelle « Le programme scientifique de Planck ».
Mes espoirs.
Donc, qui est tout ce qu'on pense, sont à la fois les choses qui sont quasiment garanties, au sens où on ne connaît pas les valeurs, mais on sait que le genre de choses qu'on regarde, et puis y compris sur les choses les plus spéculatives. Alors, bon, dans les choses spéculatives, c'est notamment des sources sous-dominantes de fluctuations. Alors, par exemple, des cordes cosmiques ou des résidus de cordes fondamentales laisseraient une signature très intéressante. Mais d'une manière générale, on va aller un peu plus loin. D'une certaine manière, jusqu'à maintenant, on a beaucoup caractérisé le corps noir cosmologique avec essentiellement une observable, ce qu'on appelle le spectre de puissance, la fonction de corrélation. Enfin, le détail n'a pas beaucoup d'importance, mais qui est une observable qui est suffisante, nécessaire et suffisante pour entièrement caractériser un certain type de fluctuation qu'on va appeler gaussienne. Alors gaussienne, c'est des mathématiques, c'est pas la peine de regarder dans le détail, mais disons qu'une certaine catégorie de fluctuation se décrit facilement et de manière extraordinairement condensée par une fonction qu'on cherche à mesurer. Or, on pense que au niveau de précision qu'on commence à aborder avec Planck, on commence à pouvoir voir des écarts à la gaussianité, c'est-à-dire à cette façon fondamentale de regarder les choses, de caractériser les choses, pardon. Et donc là, il faut mesurer des tas d'autres choses. Et ça commence à révéler des tas d'autres possibilités. Alors ça, c'est très très intéressant, et ça, c'est une sorte de terre vierge, quasiment vierge, que Planck va commencer à explorer. Alors, il y a des limites supérieures, bien évidemment, qui sont par WMAP, avec même des indications tentatrices, disons, il y a peut-être certains effets dont on aurait peut-être vu un début, etc., dans les données de WMAP. Planck, ça va être aussi beaucoup, alors c'est un terme un peu barbare, mais beaucoup la recherche de non-gaussianité, c'est-à-dire d'écarts, là aussi de petits écarts à la distribution moyenne, enfin qui est gaussienne. On sait que les propriétés moyennes du corps noir sont assez bien définies d'un point de vue distribution spatiale par une distribution dite gaussienne. De même qu'il y avait, si vous voulez, l'autre grand nom, on aurait pu l'appeler satellite le Gauss. Il y a la courbe de Planck qui décrit bien la distribution sous forme en énergie du rayonnement, mais c'est en gros une distribution gaussienne qui décrit le type de propriété à l'ordre zéro de ces tâches. Et donc nous, on va commencer aussi à regarder de manière beaucoup plus détaillée les écarts potentiels à cette manière de décrire les choses.
Est-ce que ça veut dire que là où on en est sur la cosmologie aujourd'hui, avec beaucoup de nouvelles idées, avec des gros problèmes qu'on n'a pas cités là, mais qui pourraient être autour de matière noire, énergie sombre, etc. Est-ce que Planck a, je vais pas dire des expériences déterminantes, mais est-ce que vous allez jeter à la poubelle beaucoup d'hypothèses, en faire venir d'autres ? Alors je ne demande pas lesquelles nécessairement, mais est-ce que ça va être déterminant ? Est-ce que l'observation peut être déterminante pour éliminer, par exemple, toutes ces questions autour de la physique des cordes, par exemple ?
Alors là, il y a deux questions, et avant votre dernière bout de phrase, j'aurais répondu non. Sur l'existence, et avec des quantités globalement fixées d'énergie noire et de matière noire, les ordres de grandeur ne vont pas changer par Planck. C'est-à-dire, Planck va préciser les choses, mais ne va pas, sur ce point-là particulier, révolutionner quoi que ce soit, je pense. Parce que Planck n'est pas le bon outil pour essayer de trancher entre des explications alternatives sur ce que pourrait être ce qu'on appelle l'énergie sombre. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est l'énergie sombre, à part que c'est un grand mystère. Non, mais même rentrer à l'expliquer de manière un peu plus pédagogique. Mais à l'heure actuelle, il y a deux grandes catégories d'explications, et ça, c'est très important, qui sont soit il existe un certain contenu de l'univers un peu mystérieux qu'il faut caractériser, soit les équations que nous utilisons pour modéliser l'univers, qui sont à l'ordre zéro la gravité, ne sont pas totalement correctes. C'est deux catégories qui sont assez fondamentalement différentes. Donc on commence à essayer de penser, enfin non, il y a beaucoup de gens qui s'agitent à l'heure actuelle sur quelles expériences il faudrait construire pour essayer d'aller plus loin. Et donc, le moment où ces différentes explications sont les plus visibles sont quand l'univers est beaucoup moins vieux que les époques sondées par Planck. Donc, c'est des manips, c'est des expériences post-Planck. Néanmoins, toutes ces expériences prennent pour acquis que Planck a marché et a déjà fonctionné pour fixer tout le reste. Dit autrement, Planck va fournir les épaules sur ce sujet-là, pour les autres, pour regarder plus loin. Parce que les expériences, si on était en train de dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux connaître l'énergie noire, on dirait, bon, on va commencer par faire Planck, et justement, ça tombe bien, puisqu'il va fixer tout un tas de paramètres que les autres expériences ont besoin de connaître pour affiner les choses, mais ne peuvent pas déterminer. Donc, on commence par fixer cet ensemble, et ça, c'est ce que fait Planck très, très bien, enfin, et d'une certaine manière, les expériences de corps noir cosmologique, ça fixe, si vous voulez, une sorte de paramètre d'ensemble. Et après, on peut concevoir des expériences ultérieures qui vont se concentrer sur les petits bouts que Planck à lui seul ne peut pas résoudre. Mais ces expériences-là, sans Planck, ne pourraient pas les résoudre non plus.
Quand vous faites c'est très à la mode, hein, j'ai fait un rêve. Quand vous faites un rêve de résultat de Planck, à quoi vous pouvez rêver comme étant quelque chose de, entre guillemets, révolutionnaire pour vous ?
Si c'est vraiment révolutionnaire, je ne peux pas vous le dire à l'avance.
Allez, un bout de rêve.
Disons, un bout de rêve, je ne sais pas, c'est quelque chose qui surprenne. De toute façon, quand on travaille depuis 15 ans sur quelque chose, on espère pas que des confirmations. On espère, même si c'est des confirmations dans les livres d'histoire qui fixent, disons, la vulgate.
Alors une révolution
Peut-être.
Qui pourrait prendre quelle forme ? Allez.
Je ne sais pas, détection de choses inattendues, c'est-à-dire de non-gaussianité. D'une manière générale, je vous l'ai déjà dit, je l'ai dit sous une forme un peu de scientifique, mais la mesure des écarts à ce qu'on appelle la gaussianité, c'est d'une certaine manière ça qui est le plus révélateur de choses nouvelles. Et donc, maintenant, quelle forme ça peut prendre ? Est-ce que c'est des formes qui traduisent des formes d'inflation non minimale, sous forme de cordes ou de textures ou autres ? Bon, ça, d'une certaine manière, quoi que ce soit qui sort, qui va au-delà, disons, du modèle standard regardé jusqu'à maintenant, de toute façon, ça sera très intéressant.